Un des gros enjeux des métropoles en France aujourd'hui, c'est effectivement, et la description que vous avez faite de la métropole de Lyon, qui est, je pense, exemplaire de ça à maint point de vue, c'est que ce sont devenus des énormes outils de création et d'aspiration de richesse, de redistribution aussi, peut-être, mais ça reste, je pense, un sujet qui reste vraiment à démontrer. Il y a la question de la pertinence du territoire et la question de la relation de ce territoire à ce qui l'entoure. Et ma question, c'est est-ce que la réponse est nécessairement dans une logique d'intégration et de toujours plus grand, ou est-ce que vous réfléchissez aussi à d'autres moyens et à d'autres modes de relation à l'environnement de la métropole? Je sais qu'Olivier a beaucoup œuvré dans ce sens-là, mais ça m'intéresse d'avoir la vision que vous avez à Lyon sur ce sujet-là.
Je vais répondre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le fait qu'aujourd'hui, il faut que les collectivités, notamment les plus importantes d'entre elles, parce que nous avons, elles sont contractualisées, hein, il faut que les collectivités aient les leviers pour changer. On ne fera pas face à la contrainte financière qui est la nôtre depuis maintenant 5-6 ans avec la privatisation et la contractualisation, surtout si elle est pérennisée et surtout si elle est renforcée ou endurcie par l'État. Pourquoi pas, hein, après, il faut s'y préparer, je pense. On n'y fera pas face qu'en érodant le service public. Ce qui a quand même été la première réponse. Thomas pourra en témoigner sûrement sur quelques agrégats, mais la première réponse face à la contrainte, c'est 1. Je baisse mon investissement. 2. Je maîtrise mes dépenses fonctionnelles, mais je les maîtrise pas en étant plus efficient, mais souvent je réduis le service public. Je ferme les équipements, je réduis les heures d'ouverture. Enfin, là aujourd'hui, l'observatoire que l'on a depuis 4-5 ans, il est éloquent. On a baissé le niveau de service public. Il y a eu des dégâts d'efficience, hein, je ne le cache pas, mais qui ont bien souvent été faits avant. Mais la contrainte qui était très violente, très soudaine, à laquelle les collectivités locales ont dû faire face, c'était une contrainte qui a été absorbée par la réduction, genre les dépenses d'investissement sur le début du mandat n'ont jamais été aussi basses. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, que les départements investissaient 13 milliards en moyenne dans les années 2000. Aujourd'hui, les départements, ils sont à 7-8 milliards en moyenne. Donc, c'est évident. Hein. Et le début du mandat communal n'a jamais été aussi modeste en termes d'investissement. Ça reprend, si j'ai bien compris, en 18 et 19. Là, j'ai vu un papier dans Le Monde hier, je crois, qui disait que la dernière année du mandat était évidemment une année d'investissement, mais heureusement. La ville de Lyon, par exemple, vient de voter son CA. Le CA de la ville de Lyon, en matière d'investissement, je prends un chiffre à 80 millions d'euros, mais 80 millions d'euros rapportés à 500 000 habitants, c'est le plus faible niveau d'investissement à Lyon depuis 20 ans. En volume, hein, on n'a pas inflaté. Donc, c'est vertigineux, c'est le coup de frein qui a été mis. Donc, ça se retrouvera dans le service public. Hein. Et beaucoup de choses ont été fermées, beaucoup de choses ont été réduites, hein, et je le dis parce que je l'ai pratiqué. Moi, j'ai pratiqué à Arras quand j'étais à Arras auparavant, j'ai fait à Lyon, j'étais à Métropole. On réduit la voilure, hein, et donc il faut qu'on ait des outils pour faire autre chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des réformes de structure profondes qui permettent d'aller chercher des gains d'efficience et du coup de faire face à cette contrainte financière. Parce que tenir le 1-2, il ne faut pas se le cacher, tenir le 1-2 quand l'inflation est à 2. Et quand on est sur un territoire qui démographiquement est en forte croissance, c'est très compliqué. Ça ne coule pas de source. Nous, ici, on prend un cinq de population chaque année. Avec les recettes qui vont avec, c'est là où le contrat, on va faire un débat sur le contrat, mais le contrat il est mal foutu quand même, parce que nous, on tient à 1-2, mais évidemment, nos recettes progressent entre 2 et 3%, voire plus. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais les bras de brut. Les bras de brut, qu'est-ce que j'en fais? Bah, soit j'investis plus, mais si j'investis plus, ça me fait des charges en fonctionnement, donc ça me limite. Soit je vais me désendetter, ça me limite aussi, et en plus ça ne rend pas service au prochain sujet qui est la FN. Et trois, je baisse la fiscalité. Et vous verrez que le grand débat des municipales, ça va être de la baisse de fiscalité. D'ailleurs, ça démarre, puisque moi j'ai baissé la TOM ici, on a déjà baissé la TOM de 25 millions, et j'ai vu que Nîmes, je crois, a baissé sa fiscalité, a baissé ses taux en 19. Donc ça a démarré, ça veut dire qu'effectivement, on se trouve dans un système où, quelque part, la croissance de la richesse, qu'elle soit démographique ou qu'elle soit économique, ne va pas être restituée sur le territoire. C'est un vrai problème de fond, quand même, hein, quand je l'évoque, parce que dans le temps, je ne sais pas ce que ça va produire, mais ça peut produire des hétérogénéités très fortes de politique publique. Donc, pour faire face à cette contrainte et pour l'idée de réduire le service public, il faut absolument qu'on ait une levier à main. C'est vrai que moi, je prendrai toujours qu'on ait la capacité, en permanence, à fusionner, à mutualiser, à se rapprocher pour faire des gains d'efficience et réduire au minimum les impacts pour le service public. Ça, c'est important. Après, pour ce qui concerne Lyon en particulier, moi, je pense qu'il faut évidemment se prévenir contre les tentations d'hégémonisme que l'on pourrait imaginer, hein, qui sont présentes, parce que c'est aussi des visions territoriales de 30 ans. C'est-à-dire que quand on regarde la France territoriale sur les 30 dernières années, on voit bien que les deux collectivités les plus puissantes aujourd'hui, et surtout celles qui n'ont cessé de grossir, c'est la région et l'Interco. Elle n'était quasiment pas existante lors des lois du 2 mars 82 de centralisation. Donc on voit bien le mouvement profond, qui d'ailleurs, là pour le coup, l'État avec un grand E, a une certaine forme de continuité, vous l'exprimerez mieux que moi, puisque vous essayez d'influencer l'État au fil des décennies et au fil des mandats et au fil des majorités qui le traversent. Mais l'État, comme semble-t-il, lui, il a une trajectoire très cohérente, où si on se projette, dans 20-30 ans, il n'y aura plus de départements, il y aura peut-être encore des communes, mais qui auront peut-être largement fusionné, hein, et qui n'auront pas du tout le même niveau de compétences qu'aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est la trajectoire. Donc après, moi, je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal, enfin, je ne suis pas sûr qu'elle soit idéale. Je veux juste qu'elle ait une, hein, et qu'on ait la capacité à changer pour préserver le service public. Voilà. Et après, si on peut laisser plus d'initiatives locales, c'est sûrement mieux. C'est un peu la chance qu'a eu Lyon. Mais par contre, comme on voit qu'on est dans l'initiative locale, elle est rarissime. Et elle relève après de lieux politiques qui savent se faire harakiri. C'est-à-dire qu'en vrai, d'un politique qui dit ben, « moi, je renonce à un mandat, je renonce à ma collectivité ». C'était le cas ici aussi, hein, où effectivement, les maires environnants ont dit ben, « je redonne à Coyer, qui était quand même le président de l'Assemblée, maire d'Annecy-le-Vieux, qui demandait « ça rime plus à rien, cette histoire. Moi, je suis Annecy-le-Vieux, mais on ne sait jamais quand on passe d'Annecy-le-Vieux à Annecy. C'est pareil, quoi. Je suis un quartier d'Annecy, donc en vrai, ça rime à rien de garder mon peu carré. Moi, j'ai ici le même problème. On est à Villeurbanne, on est à Lyon, c'est parfois la même rue. La seule différence, c'est que ce sont nos payants les plus chers d'un côté que de l'autre. C'est comme ça, parfois, que je sais que je suis à Villeurbanne ou à Lyon. Mais sinon, je ne sais pas. Mais ça ne sert à rien de garder parfois nos précarés communaux. Donc, on voit bien qu'il y a nécessairement une trajectoire, il faudra se rapprocher, il faudra aller plus loin. Je pense qu'elle est à ce niveau-là. Hein, même si je trouve que, sur un de blocs de compétences, on pourrait là aussi mettre des expériences vachement intéressantes sur l'éducation. Moi, je suis très frustré qu'on n'ait pas une chaîne éducative aujourd'hui, peut-être sur une collectivité. Donc, on n'a pas la même collectivité qui gère l'école, le collège, le lycée, ou au moins une collectivité qui gère collège et lycée, quoi, qui est vraiment un vrai parcours commun, et avec derrière peut-être des enjeux d'apprentissage aussi, etc. Hein, voilà. Et donc, c'est, parce que pour le coup, la région et les lycées, ça fait quand même un sacré territoire, dorénavant. Donc, c'est pas évident de garder une cohésion, une homogénéité, etc. Donc, des choses comme ça, ça se réfléchit, ouais.
Bon, en même temps, tu n'as pas répondu à la question depuis un instant, mais on en reparlera. Il était sur l'alliance des territoires.
Ah, je voulais y revenir, effectivement, la prolonger.
Il faut répondre à la question.
Mais je la prolongeais, du coup. Dans la réforme territoriale récente, le département s'est retrouvé de fait positionné sur la question des solidarités humaines, vous l'avez très bien dit, sur la question de la solidarité des territoires. On peut se dire que sur Lyon, vu la taille de la métropole versus un petit département, effectivement, il y avait un sujet, c'est le design n'était peut-être pas très très adapté, mais quelque part...
Juste précise, parce qu'il ne l'a pas dit tout à l'heure, Olivier, c'est pas un petit département, il est 50e dans la liste des départements, il est au milieu.
Non, surface, j'entends. Au regard de l'aire de rayonnement de la métropole de Lyon, qui s'exprime sur un système territorial beaucoup plus vaste, voilà, quand on regarde quelles sont les interactions territoriales de la métropole lyonnaise, évidemment qu'il y a des interactions qui sont grosso modo à l'échelle de la région Rhône-Alpes d'aujourd'hui, quasiment. Donc, quelque part, au-delà de la question de l'institution départementale, c'est pas le sujet, mais la compétence ou cette fonction de solidarité des territoires, vous l'imaginez comment? Parce que quelque part, on est en fait un emporte-pied sur le département, la solidarité humaine, vous la recouplez au dynamisme économique, et on voit bien que là, il y a de la synergie, c'est intéressant, mais la dimension de solidarité territoriale, justement, elle est où? Est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous imaginez avec le système territorial d'influence de la métropole lyonnaise?
Alors, là-dessus, d'abord, je vais l'évoquer à l'intérieur de la métropole, à l'extérieur. À l'intérieur, c'est clair qu'aujourd'hui, on a quasiment tous les leviers pour faire une vraie solidarité des territoires au sein de la métropole. Puisqu'on a, évidemment, comme toute grande collectivité urbaine, on a évidemment des territoires extraordinairement hétérogènes. Des territoires en voie de ghettoisation dont il faut qu'on se prémunisse. Et ça, c'est pour le coup un discours constant que l'on a depuis des années en disant le gros risque de nos grands territoires urbains, ça reste la fracture sociale. Dans un moment très compliqué du pays. Et il y a 15 jours, on a eu, je vais dire, un mini-attentat, mais en tout cas, une esquisse attentat qui montre que on est en grande fragilité sociale sur un certain nombre de quartiers, il faut qu'on s'imprimise. Donc on a les outils aujourd'hui, plus que jamais, pour garder le territoire en cohésion, là, c'est important, et pour l'extraterritorial. Alors, on a des outils traditionnels, on a un pôle métropolitain qui est composé des territoires périphériques et qui est un lieu de concertation, mais aussi un lieu d'articulation, là aussi, de nos compétences, au sein de sujets, hein. Au-delà des infras d'ailleurs, on est vraiment dans l'articulation des compétences. On a un SCOT aussi, évidemment, qui dépasse métropole, qui est sur la métropolitaine, qui permet là aussi d'avoir positionné très clairement des prérogatives pour chaque territoire, hein, ou des affinités, etc. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, comme on est un territoire saturé, on a un ruissellement important sur les territoires périphériques. En termes d'outillage aussi, on a par exemple notre agence de développement économique et puis une des agences les plus reconnues de France, la DERLI, hein, qui est une agence assez puissante, qui aujourd'hui travaille et pour la métropole, qui est son principal financeur, mais aussi qui preste pour d'autres communautés qui sont adhérentes. Par exemple, la DERLI preste pour Saint-Étienne. La DERLI preste pour la communauté de Villefranche. La DERLI preste pour le Sud, pour la CCML aussi. Donc, on a aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de territoires qui bénéficient de cela et qui en bénéficient. Après, on est beaucoup dans du bilatéral. Par exemple, avec l'Ain, on est dans du bilatéral avec le département ou avec un certain nombre de syndicats d'aménagement qui, aujourd'hui, positionnent leur créneau économique, c'est-à-dire leur marketing économique, en résonance avec la métropole, et pas en concurrentiel nécessairement. Idem un peu pour l'Isère, en tout cas l'Isère frontalière, hein, qui s'est beaucoup développée sur l'île d'Avaux autour des enjeux logistiques notamment, hein, et qui sont effectivement un corollaire du tissu économique de la métropole. Mais tu pourras en parler un peu du coup, parce que tu es à la fois victime ou partenaire de la métropole, mais voilà, on essaie d'avoir des liens assez étroits, et ce dont je peux témoigner aujourd'hui, c'est que on a des flux économiques qui se font, ben, quand je dis des flux, c'est des installations économiques qui se font en périphérie, parce qu'on n'a plus les moyens de les accueillir. Et donc on va nécessairement les positionner par contre tout près de la métropole, ou bien ils se positionnent tout près parce qu'ils veulent bénéficier des avantages de la métropole, notamment des infrastructures, et sans avoir la capacité à s'y installer. Donc aujourd'hui, on a aussi ces situations-là. On vient de faire un truc à Tarare, par exemple, qui était un territoire sinistré par ailleurs.
Oui, on n'a plus beaucoup de temps, si on veut. Oui.
Très rapidement, c'est juste... Je suis...
D'accord.
Oui, mais je l'avais prise purement le micro, je suis désolé. Juste une question sur les questions de régime indemnitaire. En fait, quand vous avez fusionné le département et la métropole, du coup, les régimes indemnitaires ne sont pas les mêmes. Il y a quand même eu, pour certains, une augmentation de salaire qui a permis d'accepter le principe ou pas, comment ça se passe dans ces cas-là. Alors, Et c'est vrai que moi, je viens de la Haute-Savoie, donc j'ai bien vu aussi la problématique de la fusion des six communes sur Annecy, qui pose des soucis sur déjà au moins ces règlements-là, pour faire en sorte que chaque fois qu'on franchit la porte de la collectivité locale, on ait quand même du plaisir à savoir qu'il y en a un peu plus dans le portefeuille.
Alors, la question des alignements de rémunération, donc du RI, c'est une vieille question aujourd'hui, puisque en fait on l'a rencontré d'abord dans les premières expériences de mutualisation entre la ville centre ou les communes et le PCI, et ça fait maintenant 20-25 ans que ça a démarré, hein, et que ça s'est beaucoup développé. Et puis ça s'est intensifié avec les SDCI, hein, les schémas directeurs de coopération intercommunaux qui ont revu les cartes intercommunales et au 1er janvier 2013 et au 1er janvier 2017, avec les nombreux de fusions de PCI qui ont généré effectivement la question de RI différents. Et puis j'imagine que les régions qui ont fusionné ont rencontré le même problème, même si les régions, généralement, de par leur richesse financière, avaient la capacité à souvent avoir les RI plutôt attaquées. Et donc, on va rencontrer ces difficultés-là. Non, pas partout. En tout cas, c'était le cas plutôt sur Rennes. Et donc, le sujet s'est posé évidemment chez nous. Alors, c'est vrai qu'en France, on l'a beaucoup constaté, il y a eu un alignement bien souvent par le haut. Parce que là aussi, hein, beaucoup de lieux, d'opérations ont pu être faites en s'alignant par le haut, parce que le coût n'était pas très, très élevé, parce que les écarts pouvaient ne pas être très élevés de RI. Bon. Ici, c'était injouable, parce que, effectivement, les écarts de RI qui était croisée d'ailleurs, hein, selon les collectivités, faisait que le surcoût était très important. Donc du coup, il a fait le choix de ne pas aligner les RIP et d'essayer de faire cohabiter les RIP. Ce qui a été un des grands, je ne l'ai pas évoqué parce qu'on est vraiment dans notre temps bouillantin, mais ce qui évidemment a été un des grands handicaps de la culture commune. Parce qu'évidemment, encore aujourd'hui, hein, c'est un des principaux combats syndicaux. Hein. Mais aussi pour les agents. Donc on s'est mis dans une logique de convergence où effectivement les RI les plus favorisés évoluent moins vite que la normale. Et ceux qui étaient dessous rattrapent un peu rapidement. Mais cette convergence qui peut se faire sur 10, 15 ans sur la carrière, évidemment, elle est très frustrante. Vous faites qu'on est malheureux, en fait, parce que ceux qui avancent moins vite, bah, évidemment, ils regrettent la fusion. Ça, c'est souvent les anciens intermèdes qui disent « Nous, la fusion, pour l'instant, c'est une catastrophe. Moi, j'ai perdu du temps, si j'avais avancé normalement. » Et puis, les départementaux, ils sont frustrés, parce qu'ils n'ont pas été alignés. Donc, même sur les vous accélérez, plus vite que si vous étiez resté en département, aujourd'hui, mais je suis en métropole, moi je travaille avec des collègues qui gagnent plus que moi. Et donc même si j'accélère plus vite qu'eux, je suis encore loin, puis le temps que je les rattrape, je suis à la retraite et je peux voir même, je suis déjà dans 2 mètres carrés de sapin. Donc, 2 mètres cubes plutôt. Et donc, c'est compliqué. Et donc, ça, c'est une vraie difficulté qu'on a plutôt essayé de résoudre en accélérant les convergences et en révisant le RI avec ces erreurs des révisions de l'ERI, voilà. Mais faudra qu'on fasse une évaluation complète, parce qu'on voit bien que c'est des obstacles importants à des projets de fusion, de rapprochement, et comme je dis, c'est des projets pourtant qui sont consubstantiels sûrement dans les avenir au fait qu'on arrive à faire face à la contrainte qui est la nôtre.
Une dernière question, vraiment la dernière, et puis on passe à la dernière séquence.
Bonjour, j'ai une question concernant la réflexion qui se joue justement entre les communautés XXL, même si la situation du Grand Lyon est à part, est-ce que vous regardez ce qui se dit, ce qui se réfléchit à ce niveau-là, parce que la question justement du rôle des communes et le rôle de l'Interco, sont beaucoup débattues en ce moment, notamment dans les communautés à 100-150 communes. Est-ce que vous pouvez vous y intéresser aussi pour nourrir votre
propre... Oui, monsieur, enfin, mais après, quand vous êtes gros, celui que vous êtes en plus lyonnais, vous avez pas l'humilité évidente quand même, hein. C'est une collectivité qui, historiquement, est assez suffisante, quand même. Hein. Non, je dis parce que je viens comme Olivier, comme Franck, je viens du Conseil, comme Philippe aussi, on était concurrents les uns les autres à l'époque, même sur la même imprimante. Moi, j'ai ce réflexe du matchman, de la comparaison, et surtout du fait que, en permanence, il faut aller voir et chercher ailleurs ce qui marche, quoi. Ce qui n'est pas évident du coup à apporter ici, parce qu'il y a toujours l'impression de d'être les plus innovants et du coup de réinventer le tir de permanence pour autant. Oui, il faut en permanence se benchmarker, se regarder, se comparer. Il faut le faire soit nationalement, soit international. Bon, vous voyez, pendant deux jours, je recevais là, le DG de la métropole de Barcelone. C'est vachement intéressant de se confronter un peu parce qu'ils ont des idées ou des méthodes ou des fonctionnements qui peuvent vraiment enrichir nos... Enfin, moi, je me souviens par exemple en 2006, j'étais à l'île de Lyon, j'étais en charge notamment des DSI, je suis allé voir le système de GRC, gestion de la relation citoyenne, enfin, ce qu'on appelle CRM en anglais, de Barcelone. Enfin, je suis ressorti de là, j'ai compris qu'on avait 10 ans de retard et c'est comme ça qu'on a lancé notre projet GRC, qui est une relation complètement digitalisée du citoyen.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Barcelone, j'ai évoqué.
Ben voilà, c'est aussi ça qu'il faut faire en permanence, quoi. Et a fortiori, dans la conjoncture qui est la nôtre, où il faut aller chercher les très bonnes idées. C'était d'ailleurs une partie peut-être d'ailleurs des espaces où l'observatoire pourrait aller. Hein, vous voyez, c'est aller effectivement repérer, valider et quelque part qualifier des expériences réussies d'action, de rationalisation. Hein, mais il faut évidemment... il faut évidemment en permanence en inspirer. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on est en compétition. Enfin, quand je dis je crois, c'est une évidence. Mais on est en compétition mondiale aujourd'hui, enfin, ou au minimum européenne. Si vous voulez. Donc, si on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, comment les territoires sont gérés, comment ils évoluent, comment ils vont vite, comment ils s'adaptent aux mutations de l'époque, on va être très vite à la rue. Hein. Parce qu'on est quand même très lent chez nous. Enfin, quand chez nous, c'est la France, c'est ses processus, ses méthodes. Oui, juste avant, c'est pour ça que je suis venu chercher le président, on rencontrait le PDG de Renault Trucks, qui est sur notre territoire, donc c'est pour nous un compte très important. Bon, évidemment, leur grand défi, c'est l'électrique, hein, puisqu'aujourd'hui, ils ont des normes qui sont en train de s'accélérer considérablement à l'émission de CO2. Allez, vous décrivez sa contrainte de normes, elle est vertigineuse, effectivement. Donc, ils sont en train de vivre une mutation faramineuse, hein, comme celle peut-être de l'émergence du moteur mécanique, hein, du moteur diesel. Hein, qui... Et donc, ils nous disent, écoutez, ça y est, maintenant, ma bombe, c'est la benne en ménagère, ma bombe électrique est prête. Donc, j'aimerais qu'on fasse que Lyon devienne le territoire là, expérimentateur de la bombe électrique, etc. etc. Mais attendez, nous, marché public, vous lancez un marché, ben, sur une bombe, c'est 12-18 mois, vous voyez, enfin, c'est très compliqué tout de suite. Et donc, il dit, ben, c'est vrai, ouais, alors merde, parce que moi, hier, deux semaines, j'étais en Chine, et là, ils sont prêts tout de suite à m'accueillir une flotte de 100 bombes. Ben, oui, il faut avoir ça en tête, quand même. C'est notre quotidien. Sauf qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Quoi. Et si c'est pas ça, c'est sur les infras. Si c'est pas ça, c'est sur des émissions de politique publique, des réglementations, etc. Donc, il faut qu'on fasse gaffe parce que ça va très, très, très vite ailleurs. Et nous, on va beaucoup moins vite structurellement. Donc, tout l'enjeu est là.